Les invités. Et c'est tout de suite.
Bonjour et shalom à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Découverte. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous irons en Hongrie où une synagogue rouvre ses portes des décennies après sa destruction durant la Shoah. Il s'agit de la synagogue de la rue Rumbach, pour ceux qui connaissent, qui était autrefois le ghetto juif de Budapest. Albert Bourla, le PDG de Pfizer, a déclaré qu'Israël a fait un travail incroyable en menant la campagne de vaccination la plus réussie au monde. Where is Anne Frank, produit par Gianni Tilges en sa film et réalisé par Harry Folman, permet à Samsa Film et au Luxembourg de faire coup double. En effet, c'est le deuxième film retenu dans la sélection officielle du prochain Festival de Cannes qui se déroulera du 6 au 17 juillet. Et puisqu'on parle d'Anne Frank, sachez que c'était le 12 juin 1942 que la jeune Anne Frank, alors âgée de 13 ans, a commencé son journal. Et je vous parlerai d'histoire qui va vraiment vous intéresser, du Mossad et des femmes espions qui ont des capacités que les hommes n'ont pas, en tout cas dans son dernier livre Mossad Amazon. L'historien Michael Bar-Zohar, spécialiste des services secrets israéliens, dresse le portrait de 20 femmes ayant marqué l'histoire de l'agence de renseignement. Il délivre des anecdotes sur ces figures d'exception et cet entretien paru dans le Figaro en France. Deux chercheurs de l'Université de Tel Aviv remportent le prix universitaire le plus prestigieux du gouvernement chinois. Sachez que le 11e président de l'État d'Israël est un ancien étudiant de l'Université de Tel Aviv et cette dernière et l'association de ses anciens étudiants ont bien sûr félicité Yitzhak Herzog, diplômé de la faculté de droit Bourman de l'UTA et qui a été élu donc le 2 juillet 11e président de l'État d'Israël. Nous parlerons de la disparition d'une grande dame, Edith Moscovitch, enfant caché et témoin inlassable, une grande dame donc qui vient de nous quitter. Et si j'en ai le temps, je vous parlerai d'une autre dame, l'historienne Emmanuelle Pollack, qui a été chargée par le Louvre à Paris d'une mission très spéciale, à savoir établir la provenance des collections acquises entre 1933 et 1945.
וזיכרוני הראשון אם יופייך אינו מטעה אותי משליך גיטרה ואבי עליי צורח ואימי אומרת זה אחותה שלי ולוקחת אותי לטיול מנחם מול ירח זיכרוני השני עם עינייך אינן מטעות אותי עוזב את הבית אל סיכוני הזמן כששאלתי אותך האם תהילי לעולמים אני תביט לירח שם יש כבר אדם ואחרי שנה שכרנו חדר מול ירח מתחיל לנגן בבר קודר ברחוב המסגר והם צרכו תורידו תנמוך עם התופסידו ורק אחד אמר ילד ילד או תוריד את הירח בשבילה הייתה תקופה כזו כשהאושר בא בזר צחקנו מהכל שרפנו את מה שבא ליד לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. קשה לי להתרכז כי אופייך עוד מהמם אותי. קשה להגיד חבל או לומר אולי. במקום זה אני רוקד וצועק לירח ומאשים את העולם מחבל. לפעמים אני שוכח איך התחלתי מול ירח כשאתה שוכח. כן, כן, אתה מזכן. יש גשם בשמיים אל ירח בינתיים, וכשיצא נלך ביחד עד שנעלם. הייתה תקופה כזאת שהאושר בא בזר, צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד. לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר.
C'était bien sûr Shlomo Artzi avec Yareach, la lune. Direction la Hongrie, nichée dans ce qui était autrefois le ghetto juif de Budapest, la synagogue de la rue Rumbach a rouvert ses portes, et cela plusieurs décennies après que la destruction du bâtiment par les nazis pendant leur occupation de la Hongrie dans les années 1940. Le président du Congrès juif mondial, M. Ronald Lauder, est venu assister en personne à la réouverture de la synagogue construite en 1872 dans la partie orientale de Budapest et qui sera dorénavant un centre culturel juif. « Sans cette synagogue, je ne serais pas ici », a déclaré Ronald Lauder à des journalistes sur place. « Mes grands-parents ont déménagé à Budapest pour se marier et leur mariage a eu lieu précisément dans cette synagogue. » La rénovation du bâtiment de la synagogue a été rendue possible grâce à une subvention de quand même plus de 9 millions d'euros du gouvernement hongrois. La cérémonie a eu lieu peu après une réunion entre M. Lauder et le Premier ministre hongrois, M. Viktor Orbán, au cours de laquelle le président du Congrès juif mondial a remercié le chef de l'État pour le soutien financier du gouvernement hongrois, qui a donc permis la rénovation et la restauration de la synagogue. Les deux dirigeants ont également discuté de la nécessité de défendre et de renforcer la défense de la communauté juive hongroise. Celle-ci compte aujourd'hui entre 50 000 et 100 000 membres. 450 000 juifs hongrois ont été assassinés durant la Shoah. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, s'est exprimé dimanche dans une vidéo saluant la fantastique campagne de vaccination d'Israël contre le coronavirus qui lui a permis de devenir leader mondial dans ce domaine et d'être donc le premier pays au monde à éradiquer la pandémie. Le coronavirus, c'est l'une des crises sanitaires les plus difficiles et les plus dévastatrices auxquelles le monde ait jamais été confronté. Désormais, grâce au brillant travail des scientifiques de l'industrie pharmaceutique, nous disposons de nombreux vaccins et traitements révolutionnaires qui nous permettent de voir la lumière au bout du tunnel, a-t-il déclaré. Pfizer a collaboré avec de nombreux gouvernements dans le monde pour lutter contre cette épidémie, mais il n'y a aucun endroit où cette opération a été plus efficace qu'en Israël, a-t-il précisé. Israël a fait un travail incroyable en mobilisant ses caisses de santé et en menant la campagne de vaccination la plus réussie au monde. J'ai toujours été impressionné par le haut niveau du système de santé israélien et la grande qualité du personnel médical, des médecins, des infirmières et des spécialistes, a-t-il poursuivi. Albert Bourla a souligné le fait que le Premier ministre qui n'est plus Premier ministre aujourd'hui, mais Benjamin Netanyahou, l'a toujours convaincu qu'Israël serait l'endroit idéal pour montrer au monde ce qu'une campagne de vaccination rapide pouvait obtenir comme résultat. Mais ce qu'Israël a réalisé a dépassé toutes mes attentes. Actuellement, 57% de la population d'Israël a été complètement vaccinée. En outre, des données israéliennes récemment publiées indiquent qu'au cours des 120 premiers jours de la campagne de vaccination, le pays a évité environ 159 000 nouveaux cas, 25 000 hospitalisations et 5 500 décès, a-t-il annoncé. Ces résultats montrent au monde entier l'impact qu'une campagne de vaccination bien gérée peut avoir pour réduire la souffrance humaine. Israël devrait être très fier d'être le leader mondial et Pfizer est très fier de notre contribution à vos réalisations, a-t-il conclu.
רק אותך אוהב הלילה דמדומים ומנגינות והמתנה שלי הלילה להיותן האכזבות אותך רוצה הלילה אין לי כלום גם לא מילים ואני חולם חושב עלייך את כמו מיליון שירים
Boash Rabbi avec Atli Laila. Where is Anne Frank est un long métrage d'animation qui se base sur le journal d'Anne Frank et qui porte sur Kitty, l'amie imaginaire d'Anne Frank. Celle à qui Anne a consacré son journal intime prend vie par magie dans la maison d'Anne Frank à Amsterdam. Elle pense que si elle est vivante, Anne doit l'être aussi. Elle se lance alors dans une quête incroyable pour trouver Anne. Ce film d'animation est une coproduction entre la Belgique, le Luxembourg, Israël, les Pays-Bas et la France et sera donc projeté hors compétition, célébrant sa première mondiale à Cannes. L'animation a été réalisée en grande partie au Luxembourg par les équipes de la société Dockhouse Film, Pierre Urbain et David Mourer. La technique utilisée dans le film combine à la fois la 2D classique et les décors en stop motion. Le mixage son a été effectué par Michel Schillings. Après The Congress en 2013, c'est le deuxième film du réalisateur israélien coproduit avec le Luxembourg à être sélectionné au Festival de Cannes. Where is Anne Frank sortira dans le monde entier à partir du mois de novembre 2021. Et puisqu'on parle d'Anne Frank, continuons. C'est dans un carnet rouge destiné à recevoir des autographes et offert par son père Otto que la jeune fille commence à noter ses réflexions. Dès qu'elle le voit dans la vitrine d'un magasin d'Amsterdam, Anne Frank tombe amoureuse de ce petit carnet rouge et blanc destiné à recueillir des autographes. Et le 12 juin 1942, son père Otto le lui offre pour son 13e anniversaire. Elle commence donc immédiatement à décrire sa vie quotidienne à son amie imaginaire Kitty. Durant un peu plus de 2 ans, la jeune fille tient son journal sur le carnet puis sur des feuilles, mais ce n'est pas exactement ce récit qui sera publié après la guerre par son père. En effet, avant d'être déportée, la fuyette avait commencé à réécrire son journal dans un style plus littéraire. Et le 6 juillet 1942, soit 3 semaines après l'achat du fameux carnet, la famille Frank gagne l'annexe où ils vivront cachés durant 2 ans. 1 semaine après leur emménagement, le couple Van Pels et leur fils Peter les y rejoignent, puis un ami dentiste en novembre. Chaque jour, Anne passe de longues heures à noter tout ce qui se passe dans sa tête d'enfant. Elle évoque son petit flirt avec Peter, elle parle de ses parents avec lesquels elle n'est pas toujours tendre, à noter que sa grande sœur Margot tient elle aussi son journal, cependant celui-ci ne sera pas retrouvé après la guerre. Une fois le joli carnet rouge et blanc rempli, Anne poursuit sa rédaction sur des feuilles volantes et au fil des mois, ses notes s'accumulent. En mai 1944, Anne entend sur Radio Londres, la version hollandaise, un appel au témoignage de la population pour une publication après la guerre. Rêvant de devenir écrivaine, la jeune fille décide alors de réécrire son journal pour lui donner une forme plus littéraire. Elle censure donc les passages trop personnels où elle évoque par exemple sa sexualité et améliore le style. Elle se consacre plusieurs semaines à ce travail de réécriture tout en continuant à tenir son journal quotidien. Anne ne peut pas mener son travail de réécriture à son terme. Le 4 août 1944, les Allemands, avertis par une dénonciation anonyme, trouvent la cachette. Aussitôt, la famille Frank est embarquée. Anne doit abandonner les 2 versions de son journal derrière elle. Elle occupe plusieurs carnets et presque 300 feuillets qui sont retrouvés après l'arrestation sur le sol de l'annexe. Mip Gies, une employée de Otto, le père de Anne, qui a pris soin des reclus durant tout leur séjour dans la cachette, ramasse les précieux documents pour les ranger dans un tiroir. Elle espère pouvoir les remettre à la famille Frank après la guerre. En revanche, le journal de Margot n'a jamais été retrouvé. Malheureusement, Anne et Margot, sa sœur, meurent du typhus au camp de Bergen-Belsen. Seul leur père Otto Frank survit à l'extermination. C'est donc à lui que Miep Gies remet les journaux d'Anne. Otto en est profondément bouleversé. En août 1945, il écrit à sa mère qui a survécu elle aussi. Par un grand hasard, Miep Gies a réussi à sauver un album de photos et le journal d'Anne. Je n'ai pas eu le courage de le lire. Au bout d'un mois, il ose enfin ouvrir le carnet. Il lit à dose homéopathique 2 ou 3 pages par jour. Plus lui aurait été impossible. Il écrit de nouveau à sa mère. « Je ne peux pas lâcher le journal d'Anne. Il est si incroyablement captivant. Je n'abandonnerai jamais le contrôle du journal parce qu'il contient trop de choses que personne ne devrait pouvoir lire. Mais je ferai une sélection. » Otto, à qui Anne ne se confiait guère, découvre la vraie personnalité de sa fille. C'est une extraordinaire révélation. C'est parfois émouvant, souvent douloureux. Je n'avais aucune idée de la profondeur de ses pensées et de ses sentiments. Il lit les 2 versions, celle rédigée au jour le jour et la version littéraire. Après consultation de ses proches, il décide d'offrir au monde le récit de sa vie, de sa fille, pardon, mais quelle version publier ? Les notes prises au jour le jour ne sont pas complètes. Il manque de nombreux passages rédigés au cours de l'année 1943, tandis que la version réécrite est moins spontanée et s'interrompt 3 mois avant l'arrestation. Et finalement, Otto choisit de réaliser un mix des 2. Il part de la version littéraire qu'il agrémente de nombreux extraits tirés du journal original, sauf pour l'année 1943. Par exemple, il réintroduit le passage évoquant la brève idylle de sa fille avec le jeune Peter. Mais il en supprime d'autres, comme celui où sa fille critique violemment ses parents. En effet, Anne est souvent sévère avec sa mère, mais globalement, le père d'Anne Frank n'est pas le censeur que l'on présente. Au contraire, il rajoute à la version littéraire des passages non repris par sa fille. Plusieurs éditeurs refusent le texte. Finalement, les éditions Contact publient le journal d'Anne Frank le 25 juin 1947 en allemand. C'est Otto en personne qui a traduit le néerlandais d'Anne. Le titre original est « L'annexe », lettre du journal du 14 juin 1942 au 1er août 1944. Les éditions Contact tirent l'ouvrage à 1500 exemplaires. Aujourd'hui, plus de 25 millions d'exemplaires du journal d'Anne Frank ont été vendus, ce qui en fait l'un des 10 livres les plus vendus au monde. Quant au fameux carnet rouge et blanc reçu le jour des 13 ans d'Anne, il est exposé au musée consacré à Anne Frank à Amsterdam.
Ringen in mein Herz erreicht, hab gemeint, du wirst. first amor sein meine. Kinderjorn, junge, schöne Blume, zurück zu mir wird ihr schon mehr nicht kommen. Jorn, alte, treue Ricke, kalte, meure, scheure Dicke, haben eier schönen Platz vernommen. Kinderjorn, hab euch ungewohnt. Getreue Mama, euch verleihen. Von der Stub, die Stock, ein Fleck, Feigele ist euch weg. Oi, wie schnell bin ich schon alt geworden.
C'était Chava Halberstein avec Kinderjorn. Dans son dernier livre « Mossad Amazon », l'historien israélien Michael Bar-Zohar, spécialiste des services secrets israéliens, dresse le portrait de 20 femmes ayant marqué l'histoire de l'agence de renseignement. Il délivre aussi des anecdotes sur ces figures d'exception. Ce dernier était aussi le biographe de David Ben-Gurion et de Shimon Peres. Michael Bar-Zohar est un spécialiste des services secrets israéliens et dans son dernier livre « Mossad Amazon », il dresse donc le portrait de ces 20 femmes qui ont marqué l'histoire de l'agence de renseignement. Il a pu interroger des dizaines d'agents féminins du Mossad et a donc été autorisé à décrire des détails jamais publiés auparavant sur les opérations auxquelles elles ont participé, dont certaines très récentes. Alors je vous lis ici donc l'entretien qu'a accordé Michael Bar-Zohar au journal français Le Figaro. Alors, première question, pardon, quelle est la place des femmes dans le Mossad ? Réponse de Michael Bar-Zohar. L'image du Mossad dans le monde, c'est des gars costauds, des James Bond, mais il y a aussi des femmes qui ne sont pas moins capables que les hommes. Ce sont des femmes qui viennent du monde entier, d'Égypte, du Liban, de Pologne, du Canada, d'Australie, de France. Le Mossad cherchait à l'origine des femmes qui pouvaient se mêler à la population et ne pas éveiller les soupçons. Pardon. Elles ont été recrutées en Israël et en ont reçu la nationalité. Aujourd'hui, elles montent dans la hiérarchie. Une femme avait été préparée pour devenir même le chef du Mossad. Elle était soutenue, mais elle a préféré quitter l'agence. Elle m'a dit « l'étincelle a disparu ». Il faut, pour faire le job, avoir le patriotisme, mais aussi un esprit d'aventure, aimer les émotions fortes. J'ai senti que je n'avais plus cela. » Fin de citation. En fait, elle avait commencé sa carrière comme secrétaire, puis a travaillé en duo dans des pseudo-couples d'agents. Les femmes espions ont des sens, des instincts, des capacités que les hommes n'ont pas, et elles n'ont pas souvent l'ego très fort des hommes. Ce que l'homme a en force physique est remplacé, selon moi, par une force intellectuelle. Elles sont plus en mesure d'improviser. L'une des plus brillantes d'entre elles fut sans conteste Yael. Elle a écumé les pays du Moyen-Orient, de Beyrouth à Bagdad, une carrière formidable marquée par l'attaque israélienne contre le réacteur nucléaire irakien. Si on lui donnait toutes les médailles pour ses missions, il n'y aurait pas de place sur sa poitrine, dit-elle Tamir Pardo, ex-patron du Mossad. Elle a aujourd'hui 84 ans quand on la rencontre. On ne peut pas imaginer ce qu'elle a réalisé cette Mata Hari. Alors, question, y a-t-il des figures françaises ? Réponse, bien sûr, comme cette jeune fille qui, après mai 68, était l'une de ces étudiantes féministes qui brûlaient leur soutien-gorge sur les barricades. Elle a suivi des études en Israël où elle roulait en Harley Davidson. Elle a reçu un jour un courrier du ministère des Affaires étrangères israélien. Un groupe d'experts l'a interrogée pour la recruter. Elle est devenue la pseudo-femme d'un agent du Mossad qui se trouvait au Caire après la guerre de Kippour. Ils y passèrent 2 ans. Au début, son pseudo-mari lui prépara une chambre séparée. Elle refusa pour ne pas attirer les soupçons des domestiques. Et à Suez, au musée de la guerre du Kippour, elle a photographié des halftraks tachés de sang séché de combattants israéliens pour aider à l'identification des soldats tués. Ils sont tombés amoureux, mais en rentrant de mission, l'agent est revenu à son amour d'antan. Après des déconvenues, il a fini par se suicider sur une plage d'une balle dans la tête. Elle est devenue une femme importante du Mossad. Aujourd'hui, elle chante du Brel et des chansons françaises sur scène dans une ville israélienne, sans que personne, bien sûr, ne se doute de son passé. Alors, question, quel rôle ont joué les femmes dans la fameuse opération Orchard, qui en 2007 a permis de détruire un réacteur nucléaire syrien ? Réponse, tout commence à Vienne, avec la visite du président de la Commission syrienne de l'énergie atomique pour une réunion de l'AIEA. L'émissaire de Damas découvre une fille assise devant sa valise dans le couloir de l'hôtel. Elle dit avoir perdu la clé de son bagage qui contient sa clé d'hôtel, ses papiers, son argent. Il parvient à débloquer la fermeture avec le pass de sa chambre. La jeune fille saisit l'occasion pour en prendre l'empreinte. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il partage sa table avec une cliente de l'établissement. Elle s'énerve au téléphone. Son compagnon lui fait faux bond pour un repas d'anniversaire dans un grand restaurant. La conversation se noue et le courant passe. Ils dînent ensemble dans le fameux établissement. Un responsable arabe de ce rang qui rencontre une fille libérée laisse son téléphone portable à l'hôtel pour éviter les ennuis et ne pas être repéré. L'occasion pour une troisième comparse d'entrer dans sa chambre, de briser le code du portable et de découvrir 35 photos d'un réacteur nucléaire construit d'après les clichés par des Asiatiques. Damas bâtissait une centrale nucléaire à Deir ez-Zor avec l'aide de la Corée du Nord et le Mossad n'en savait rien. Meir Dagan, le patron du Mossad, se précipite chez le premier ministre d'alors, Ehud Olmert, qui demande à l'américain George Bush de bombarder le réacteur. Refus au nom du principe de respect de la souveraineté nationale syrienne. Mais les Israéliens se chargent alors de la mission. L'année suivante, le général Mohamed Sleiman, le maître d'œuvre du projet, est assassiné à Tartous sur la terrasse de sa résidence secondaire donnant sur la mer Méditerranée. Des plongeurs de combat israéliens l'ont abattu avec un silencieux. Alors, question, il existe sûrement des échecs au féminin, mais oui, prenez l'opération Colère de Dieu, montée pour éliminer les membres du commando de l'attaque contre les sportifs israéliens aux Jeux Olympiques de Munich, c'était en 1972. Un innocent a été tué à la suite d'une méprise à Lillehammer, en Norvège, et les agents du Mossad ont été arrêtés par la police locale. Parmi eux, Sylvia Raphaël, une femme ravissante, très glamour, basée à Paris, elle a une couverture de photographe de presse et un passeport au nom de Patricia Roxburgh. Et à Djibouti, elle couvre une révolte sanglante. Un scoop mondial, son agence organise une exposition à l'hôtel Ritz à Paris. Et elle rencontre l'ambassadeur de Jordanie au vernissage qui l'invite à Amman. Elle est reçue au palais du roi pour une séance de photos avec la famille royale. C'est en lisant la une de son journal jordanien du matin au petit déjeuner que le roi Hussein découvre la photo de Sylvia Raphaël, présentée comme un agent du Mossad. Sylvia avait besoin de passion, elle avait une liaison à Paris avec un journaliste anglais, John Swain, et avec un journaliste allemand. Jalouse, elle avait demandé au Mossad de placer sous surveillance téléphonique son amant allemand. Le Mossad a fini par le recruter. En prison, elle est tombée dans les bras de son avocat norvégien. Ils ont vécu ensemble dans un kibboutz jusqu'à sa mort. Alors, question, c'est la dernière question. Les sentiments sont-ils compatibles avec un travail d'espion ? Bonne question. Cela peut arriver. C'est le cas d'une Allemande. Elle tombe follement amoureuse d'un espion israélien d'origine dans un train qui traverse les Alpes. Le coup de foudre est réciproque. Ils se marient et partent en mission au Caire en Égypte. Le couple ouvre une ferme équestre qui accueille la haute société du cru. Ils reçoivent avec élégance des scientifiques, d'ex-savants nazis qui mettent au point pour l'Égypte au début des années 60 des fusées équipées de déchets nucléaires. Ils s'en débarrassent en leur envoyant des colis piégés, démasqués, ils risquent bien sûr la peine de mort. Et ils ont finalement été sauvés par les services secrets allemands qui ont obtenu leur libération.
זיו השדה שאספנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם הלילות בכנען תרם השמש עולה עוד הכבד חוצה שם פרדס ירוק חסידה עוד רוגעת מעל ועוד נוסע הערפל בעמק בין הצריכה ועוד נשמע אין בלבבות אוהב לו סמר ישן ומחור וגם אחורה ההיא תימהה קולה עוד עולה קולה לא נדע וגם אחורה ההיא תימהה שירה ומלא ליבי שעזבנו אז אור הארץ נושאת יעולה ואור יפים הם מלילות בדנן דרם השמש עבר
Hora avec Avi Toledano. Deux chercheurs de l'université de Tel Aviv remportent le prix universitaire le plus prestigieux du gouvernement chinois. Ce dernier a récemment annoncé sa décision d'attribuer le prix académique le plus prestigieux du pays, le prix Chang Jiang, à deux chercheurs de la faculté des sciences de la vie de l'université de Tel Aviv, à savoir le professeur Marcello Sternberg, directeur du laboratoire d'écologie végétale de l'école des sciences végétales et de sécurité alimentaire, et le professeur Ehud Gazit, directeur du Centre Blavatnik pour le développement de médicaments de l'École de biologie cellulaire moléculaire et biotechnologie. Le prix Chang Jiang est la plus haute récompense académique de Chine. La décision de l'attribuer à des chercheurs étrangers est considérée comme très inhabituelle et témoigne de leur excellence exceptionnelle. Le professeur Sternberg a remporté le prix pour son travail de collaboration avec l'université de Ningxia et sa contribution à la recherche sur le changement climatique et les processus de désertification, un défi important pour la région du nord-ouest de la Chine où se trouve cette université. Je suis honoré et très heureux de recevoir ce prix, a-t-il déclaré. La région de l'université de Ningxia est confrontée à des défis majeurs liés au climat, y compris des problèmes de désertification importants, et j'espère sincèrement que mon expertise et mes connaissances dans le domaine de l'écologie du changement climatique contribueront à mettre en place des programmes de recherche et d'enseignement qui renforceront leur base de connaissances, car la question du changement climatique mondial est l'un des principaux défis auxquels l'humanité est actuellement confrontée. Fin de citation. Quant au professeur Gazit, il a remporté le prix pour sa contribution aux recherches en commun avec l'université Xidian dans le domaine des nanotechnologies. L'étude portait sur l'auto-assemblage de molécules biologiques et de molécules bio-inspirées pour créer des structures nanométriques ordonnées et en particulier les propriétés piézoélectrique de ces matériaux, c'est-à-dire, pour ceux qui n'auraient pas compris, leur capacité à générer une tension électrique en réponse à une pression mécanique. L'étude a été réalisée dans le cadre d'un projet financé par l'ERC, dont l'objectif était l'assemblage de peptides les plus courts possibles, dotés de propriétés piézoélectriques élevées. Ces propriétés sont d'une grande importance physiologique car les structures du corps, y compris les os et le collagène, protéine la plus courante chez les mammifères, sont piézoélectriques et l'activité biologique de cette propriété physique n'est pas encore entièrement comprise. Je suis ravie de l'opportunité de promouvoir cette coopération fructueuse avec des scientifiques en Chine, a déclaré pour sa part le professeur Gazit. J'ai visité la Chine à plusieurs reprises et plusieurs étudiants chinois, dont certains sont déjà membres du corps professoral de grandes universités en Chine ont réalisé leur post-doctorat dans mon laboratoire. Il s'agit d'une situation win-win, gagnant-gagnant classique. Il n'y a aucun doute que la combinaison de la puissance technologique et industrielle de la Chine avec nos connaissances et notre approche académique unique nous permet de faire progresser considérablement la recherche et de réaliser d'importantes découvertes scientifiques.
Es läuft der Wind über die Felder, Regen freiler wie am Mond. Lacht und springt über die Wälder, über Wagen, über Turm. Es läuft der Wind über die Felder, Regen freiler wie am Mond. Lacht und springt über die Wälder, über Wagen, über Turm. Знать, еще горит, горит моя звезда. Да, еще горит моя звезда, ой, моя мечта, весна моя. In es tanzen alle Bäume mit den Zweigen in der Rot. In es singen alle Jamen gut wie feiglichen Assort. Oh, sehen wir tanzen alle Bäume mit den Zweigen in der Rot. In es singen alle Jamen gut wie feiglichen Assort. Znat, еще горит, горит моя звезда. Да, еще горит моя звезда, ой, моя мечта, весна моя. Лети, мой конь, мой белый сень, метель и огня. Привези меня же к милой, вишь, тоскует без меня. Ой, ты лети, мой конь, мой белый сень, метель и огня. Привези меня же к милой, вишь, тоскует без меня. Знать, еще горит, горит моя звезда. Да, еще горит моя звезда, ой, моя мечта, весна моя, моя мечта, весна моя, моя мечта, весна моя.
Ой! Jacques Grobert. Maintenant, je voudrais vous parler de la disparition d'Edith Moscovitch, enfant caché et témoin inlassable, une grande dame qui nous a quittés, enfant juive cachée durant la Seconde Guerre mondiale pour échapper à la déportation. Edith Moscovitch a consacré sa vie à témoigner pour faire comprendre les horreurs de la Shoah et à transmettre un message de vigilance vis-à-vis de l'antisémitisme et de la haine afin de préserver leur avenir. Des classes entières de collégiens et lycéens ont été touchées par la force grave, l'émotion et la douceur de son message, ainsi que par ses témoignages lors des voyages à Auschwitz ou dans d'autres lieux de mémoire. Edith Moscovitch a montré à quel point les témoignages et le devoir de mémoire permettent de lutter contre l'antisémitisme qui a brisé tant de vies. Avec la disparition des témoins et rescapés de la Shoah, il appartient à chacun de porter son message de vigilance. Déléguée du comité français pour Yad Vashem, elle a porté haut le message sur la bravoure des justes parmi les nations qui ont caché des juifs durant la Shoah au péril de leur vie, des choix qui honorent l'humanité. Edith Moscovitch était chevalier de la Légion d'honneur et au nom de toutes les associations, le CRIF Languedoc-Roussillon a présenté ses condoléances attristées à la famille d'Edith Moscovitch et à ses proches. Edith Moscovitch est décédée à Montpellier, dans le sud de la France. Cette dernière était déléguée régionale de Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah. Elle s'est éteinte le mardi 8 juin à l'âge de 90 ans. Enfant juive, sauvée par une juste, elle avait choisi de témoigner auprès des plus jeunes des horreurs du régime nazi. Edith Moscovitch a consacré sa retraite au devoir de mémoire de la Shoah, des horreurs du régime nazi, mais aussi de l'engagement de ces hommes et femmes qui ont, au péril de leur vie, sauvé des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant plus de 20 ans, elle a témoigné dans les écoles, collèges et lycées de la région. Elle s'est donc éteinte à l'âge de 90 ans et ses obsèques ont eu lieu il y a quelques jours. Sa famille juive hongroise a fui son pays vers la Belgique et Bruxelles, précisément lors de l'instauration des premières lois antisémites en 1935, puis vers la France en 1940. Arrêtée en 1941 par la police française, ses parents et leurs 8 enfants sont internés au camp du Ressebédou en Haute-Garonne, Edith à 9 ans. La famille réussit à s'enfuir, son père soudoie les gardiens avec un peu d'argent et son alliance. Une nuit, ils ont coupé les barbelés, raconte-t-elle, et la famille rejoint Bruxelles. En septembre 1942, après de nouvelles lois anti-juives, son père décide de cacher séparément les enfants chez des habitants qu'il ne connaît parfois même pas. Edith va ainsi vivre dans une famille belge, dans un grenier, seule, coupée des autres membres de la famille, la plupart du temps dans le noir. Elle a tout juste 11 ans. Un jour, un jeune résistant vient la chercher, lui dit qu'elle ne s'appelle plus Edith Moscovitch, mais bien Eliane Martin. Et il l'emmène dans une commune à une vingtaine de kilomètres de Bruxelles, à Ottigny, dans une institution catholique qui accueille de jeunes handicapés mentaux. Elle y restera cachée, à 24 autres enfants juifs, et cela jusqu'à la libération. L'infirmière responsable de la pension, Renée Jacquemotte, a été reconnue juste parmi les nations. Lorsqu'elle raconte aux élèves des classes ce jour où elle a vu son père arriver au bout du chemin, ses yeux bleus laissent souvent échapper une larme. Edith Moscovitch a retrouvé toute sa famille, tous sains et saufs. Et c'est à sa retraite de secrétaire médicale à Montpellier qu'elle a choisi de s'engager, de parler d'elle, de son histoire pour les autres, pour le devoir de mémoire. Et surtout auprès des jeunes captivés et impressionnés par la détermination de ce petit bout de femme qui n'avait pas besoin de hausser la voix pour retenir l'attention. Elle répondait à toutes les questions. Edith Moscovitch était devenue la déléguée régionale de l'Institut international pour la mémoire de la Shoah Yad Vashem, faite chevalier de la Légion d'honneur en 2009. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France du Languedoc-Roussillon, évoque une grande dame qui a montré à quel point les témoignages et le devoir de mémoire permettent de lutter contre l'antisémitisme qui a brisé tant de vies. Le maire de Montpellier, Michael Michael Delafosse, salue la mémoire de celle qui a consacré sa vie à témoigner auprès des jeunes générations.
« אז דרב שתי טויפן תש תתווינק צם גבי רב שפו הוים דיך סידם לזיך הויפינות וגליפן דיק אינטר השנסו היי דרך הפון רב שריים דמצך ובקשב דרנוך פרצית מן דם רב סניגן אין מן סינגט מיט גרויסס להבי Wer deiket itz, wer sollten itz, arub die Meurisch heuren. Der Rebbe soll leben, er wird schon geben, vor wem bin ob mir Meure. Siedemlach singen, siedemlach tanzen, man lass sich herein in der Kränzel. Zerir sich zu wisslach, klapp mit den Füßlach, ura wasch nicht tänzen. Die Peine ma babelte, ba peite, ba streimte, schichalachin, säckalachin, lachin. Singe, setze, singe, netze, feierte, ze springene, mit die Hände lach patschen. Ai, 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 ai. Vertrag sie dort rab Schleimerle, wie pfeift im Stieb der Dalles, zures Hotter unerschien. Ek hob nish kein shales in hobm hater neitachter kenen hor geruten alle noch weil es is nish tu kein naden is kenene noch nish kein kale oi weis mir et weis was du meint et versteit was ich mein na tachter weis mir Nein, Töchter, nein, Meiden weiß mir. Sie essen doch mich auf mit dem Fleisch und mit den Beinen weiß mir. Rief Zachub, ein alter Schera Ludwig. Rapsleime, was denkt ihr, Rapsleime? Es ist doch Sabbes. In Sabbes tun wir sein teurig. Bei uns steht geschrieben, als Sabbes darf man ruhen. Ich bin da so freilich. Nehmt das Mektabik, nehmt das Mektabik. Wer deiget jetzt, wer soll denn jetzt, arub die Meurisch heure. Der Rebbe soll leben, er wird schon geben, vor wem hin ob mir Meure. Sieh dem Lach singen, sieh dem Lach tanzen, los sich herein in der Kränzel. Zerrier sich zu bisslach, klapp mit der Füßlach, Gua vajnit tenzl I peine ma ba belde, ba peite, ba streimde Schichalachin, säckalachin, laschin Singe, setze, singe, netze, feierte, ze springene Mit die Hände lach patschen Ai, 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 ai Ai, 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 ai
C'était Yaakov Shapiro. Sachez que le 11e président de l'État d'Israël est un ancien étudiant de l'université de Tel Aviv. Né le 22 septembre 1960 à Tel Aviv, Isaac Herzog est le fils de Chaim Herzog, 6e président de l'État d'Israël, et porte le nom de son grand-père, premier grand rabbin d'Israël, Isaac Alevi Herzog. Après avoir fait son service militaire comme officier dans l'unité 8200 du corps du renseignement de l'armée israélienne, il entreprend des études de droit à la faculté Bochman de droit de l'université de Tel Aviv et est titulaire d'une licence qu'il a complétée avec des études de droit supplémentaires à l'université Cornell et à l'université de New York aux États-Unis. Avocat de profession, Yitzhak Herzog a commencé sa carrière politique comme conseiller des chefs du Parti travailliste, Yitzhak Rabin et Shimon Peres, et en 1999, il est nommé 13e secrétaire du gouvernement. En 2003, il est élu député sur la liste du Parti travailliste lors des 16e élections à la Knesset, le Parlement israélien. Il a été plusieurs fois ministre et à partir de 2005, successivement dans les gouvernements d'Arik Sharon et Oud Olbert et dernièrement Benjamin Netanyahu. Élu en novembre 2013 à la tête du Parti travailliste, il mène la coalition de centre-gauche Union sioniste à la Knesset en décembre 2014 et en juin 2018, il est élu à l'unanimité comme 15e président de l'agence juive. Enfin, le 2 novembre, il a été élu avec une forte majorité des voix, 11e président de l'État d'Israël, faisant suite à Reuven Rivlin. L'université félicite également la nouvelle première dame d'Israël, Michal Herzog, elle-même avocate et diplômée de la faculté de droit également de l'université de Tel Aviv. Voilà, c'est avec cette info que se termine cette émission découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Quant à moi, j'ai bien l'intention de vous retrouver vendredi prochain, même heure, même chaîne. Et je tiens à vous rappeler que cette émission est rediffusée le dimanche de 18 à 19h. En ce qui concerne la suite du programme sur les ondes de Radio Judaïka, place aux informations dans quelques minutes. Et en attendant, je vous souhaite à Guit Shabbos, Shabbat Shalom.
Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.
90.2 FM.
אז תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי. איתך בלי לשתות קצת מסוחרר עם הקירות אצלי בבית רק יכלו קצת לדבר אולי היו אומרים לי אהבה זה ממכר מתאים לי לחלום אותך בכל לילה רק להיות איתך את מי את אוהבת? אני שואל אותך תגידי מה קורה לי אני כמו מטורף על מי את חושבת? איך את יודעת בדיוק מה זה עושה לי? תגידי שקר לך, תגידי שבא לך אני פה איתך אוסף לי רגעים של עושר תגידי שטוב לך, אני פה איתך אז תקשיבי, את כל מה שקיוויתי איתך לא פוחד להיות חלש אני לוחש לך זכיתי וכמה חיכיתי איתך זה צנול ומטושטש כל הפרחים אצלי בגן יפים אבל פחות ממך על אשתי לא קשה כבר אהבה זה מרקך רציתי לחלום אותך בכל לילה רק להיות איתך אני שואל אותך תגידי מה קורה לי אני כמו מטורף על מי את חושבת איך את יודעת בדיוק מה זה עושה לי תגידי שקר לך תגידי שבא לך אני פה איתך אוסף לי רגעים של עושר תגידי שטוב לך אני פה איתך
J'ai imaginé sans complexe.
qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme.
Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moi Colombine Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon fils.
Femme, être une femme,
femme cinéaste.